Dialogue entre Congolais avec Alain Hirung.
Bonsoir aux provinces du Sud Kivu. À une année de la fin de la législature, quel bilan dressé de la gestion de cette province sur les plans socio-économiques et sécuritaires? Trois invités participent à cette émission. Maître Willy Kiriza, ministre des Travaux publics et de l'Environnement du gouvernement provincial du Sud Kivu. Monsieur le ministre, bonsoir.
Bonsoir, monsieur le journaliste.
Cyprien Biringingwa, président de la Société civile du Sud Kivu et coordonnateur du Centre national d'appui au développement et à la participation populaire CENADEP, antenne du Kivu. Il va nous rejoindre dans un tout petit moment. Maître Soudi Alimasi Kimputu, expert en décentralisation, il va également nous rejoindre dans un court moment. Vos réactions, par contre, nous les avons déjà. Kaliba de Gema en Nord Kivu, le bilan de la province du Sud Kivu est largement négatif sur tous les plan car au départ elle a connu des successions en succession des gouverneurs et chaque gouverneur vient avec son programme. Arnold Ombeni de Bukavu Sud Kivu, si les dirigeants du Sud Kivu n'ont pas travaillé pour le développement de la province, c'est parce que le président de la République imposait toujours des gens qui n'y vivent pas et ne connaissent pas les réalités de la province au lieu de laisser les députés choisir des gens compétents qui connaissent les vrais problèmes. Tous les trois gouverneurs sont venus de Kinshasa. Bienvenue à tous dans votre émission politique.
Dialogue entre Congolais. Vous voulez participer à l'émission? Réagissez par SMS au 081 05 15 778 ou appelez-nous au 081 890 66 78.
La législature qui a donné naissance aux institutions en RDC depuis 2006 a connu beaucoup d'interruptions à la tête de la province du Sud Kivu. Trois gouverneurs se sont succédés au cours de la même législature. L'actuel gouverneur Marcelin Tshishambo ne compte qu'une centaine de jours depuis qu'il a été élu par les députés provinciaux. Ses prédécesseurs Célestin Tshibalonza et lui Léonce Moudéroua Tshirimwami avaient été évincés par les mêmes députés. Les députés provinciaux leur avaient reproché la mauvaise gestion des deniers publics et le manque de pragmatisme dans la matérialisation des attentes de la population. Monsieur le gouverneur Marcelin Tshishambo, vous avez accepté de présenter le bilan des 100 jours de votre exercice à la tête de la province du Sud Kivu. Quel est-il?
Étant donné le temps qui nous séparait de la fin du mandat pour ceux qui ont participé aux élections de 2006, en comptant bien, il nous restait seulement une année d'exercice du pouvoir pour essayer de terminer ce qui était prévu par ce qui nous ont précédé. C'est ainsi que nous sommes restés sur le même programme, en essayant de le redimensionner tout simplement. Nous avions articulé notre programme sur trois axes stratégiques. Le premier axe, c'était le rétablissement de l'autorité de l'État sur toute l'étendue de la province, évidemment, en essayant dans la mesure du possible d'assurer la protection des droits humains dans une zone opérationnelle. Le deuxième axe, c'était l'amélioration de la gouvernance en général, en se concentrant sur les finances, puisque sans moyens, on ne peut pas faire grand-chose. Le troisième axe, c'était l'accélération du processus de mise en œuvre des 5 chantiers que certains considèrent comme un slogan et que j'espère nous prouverons ensemble qu'ils ont bien commencé dans le Sud Kivu aussi, malgré l'état de guerre. Les 100 premiers jours de notre mandat ont été consacrés à l'état des lieux d'abord, itinérance mal comprise par l'opinion de la province qui estimait à tort ou à raison que le gouverneur était tout le temps parti de Bukavu, alors que le gouvernement provincial est un gouvernement de la province qui comprend 8 territoires. Ce n'est pas le gouvernement de la ville de Bukavu seulement. Nous nous sommes dit qu'il y avait des travaux qu'on a trouvés qui avaient commencé, qui étaient à l'arrêt. Le temps de réunir un peu de moyens, on a poursuivi des travaux qui étaient à l'arrêt. Nous avons eu l'occasion de faire certaines petites choses. On a amorcé des consultations, dialogue social avec la société civile, discussion avec les églises, les confessions religieuses, quand c'était possible. Nous avons fait de la diplomatie, parce que pour une province qui a des pays comme le Rwanda, le Burundi, la Tanzanie comme pays frontaliers, on ne peut pas se contenter de faire la territoriale, quand on sait que les guerres nous viennent souvent de ces coins-là. Nous avons commencer dans la contestation la démolition des constructions anarchiques, puisque nous pensons que Bukavu, qui était la Suisse du Congo, devrait le redevenir. C'est toujours plus compliqué pour celui qui commence, mais ça doit devenir une habitude pour tout le monde, pour autant que nous avons la même conception de la ville. Et si on n'a pas la même conception, il faut qu'il y en ait toujours qui commence. Et comme nous croyons dans la continuité de l'État, et les autres doivent poursuivre. Nous avons eu affaire à la priorité des priorités pour le Sud Kivu, la question sécuritaire.
Les propos du gouverneur Marcelin Tshishambo ont été recueillis par Jean Kassami. Monsieur le ministre Willy Kiriza, le gouvernement provincial, l'actuel gouvernement provincial du Sud Kivu n'a qu'une centaine de jours. Est-ce que vous pouvez nous dire à ce jour dans quel état vous avez trouvé la province avant que l'on aborde le bilan de ces 100 jours?
Merci beaucoup pour la question. Et je vous remercie pour l'opportunité que vous m'offrez d'intervenir dans votre émission au nom du gouvernement provincial. Il est certes vrai que vous avez déjà brossé le tableau dans lequel la province s'est trouvée juste à l'avènement de notre gouvernement qui n'a que 3 mois, soit 100 jours. Et donc, la situation que nous avons trouvée était une situation pratiquement chaotique, nous allons dire, sur le plan sécuritaire. Et c'est pourquoi le gouvernement a fait son cheval de bataille, la politique sécuritaire de la province. Et c'est ainsi qu'à ce jour, il est tout aussi clair que l'amélioration est en train de s'observer, même si nous ne sommes pas encore dans les détails. Mais en tout cas, il n'y a pas à redire sur la situation que nous avons trouvée et celle qui règne dans la province située aujourd'hui.
Là, c'est sur le plan sécuritaire, monsieur le ministre, et sur le plan socio-économique.
Eh bien, sur le plan socio-économique, comme il n'y a pas de sociaux, d'aspect social ou économique sans sécurité, c'est pourquoi on sait tout de suite en termes de systématisation, on ne peut pas planifier une action socio-économique sans se rassurer de son encadrement sécuritaire. Actuellement, nous sommes en train de nous battre puisque en 3 mois, nous venons de faire pratiquement cette itinérance à laquelle faisait allusion son Excellence Monsieur le Gouverneur. Nous avons fait le tour de toutes les provinces pour faire cet état des lieux. Et donc, dans 3 mois, c'est des politiques, c'est des systèmes qui sont en train de se mettre sur pied de manière à élaborer un schéma directeur sur tous les plans, économique, social, de manière à trouver des solutions adéquates aux problèmes ainsi récoltés.
Alors, sur le plan politique, on se souvient hein, qu'entre l'Assemblée provinciale du Sud Kivu et les gouverneurs passés ou les gouvernements provinciaux passés, ce n'était pas la lune de miel. Hein.
Non, c'est exact, puisque nous disons que chaque province de la République démocratique du Congo constitue une particularité. Et la particularité de la province du Sud Kivu est que c'est parmi les provinces qui ont été secouées par les effets de la guerre et auxquels on fait constamment allusion. Et au stade où on est aujourd'hui, on peut vite se dire que les effets de ces secousses-là n'ont pas tout de suite disparu. C'est ce qui fait que sur le plan politique, il faut d'abord retravailler la cohésion sociale, cette cohésion sociale qui devra avoir pour effet collatéraux la cohésion politique. C'est ce qui explique certainement tous ces mouvements, tous ces big bangs qu'on a eu au niveau de la tête des gouverneurs de la province, de manière qu'on a eu à observer 3 gouvernements qui se succèdent. Aujourd'hui, cette question est en train d'être stabilisée, puisque quand vous voyez la manière dont nous élaborons la politique de la province, c'est en fonction, en connaissance des causes, compte tenu de ces données du passé.
Alors, Monsieur le ministre, nous avons suivi tout à l'heure le gouverneur Tshishambo pour revenir au bilan. 100 jours après, il a comme programme restaurer l'autorité de l'État sur toute la province, améliorer la gouvernance et accélérer les 5 chantiers dans les 100 jours. Qu'est-ce qui a été fait?
Dans les 100 jours, on ne peut pas dire que dans 100 jours, on va construire la cathédrale. Il aime bien donner lui-même cet exemple. Dans 100 jours, toute méthode systémique devait d'abord faire un état des lieux, ok? Et donc, vous me suivez?
Vous êtes en ligne, monsieur le ministre, on vous suit.
Ok, merci. Je disais que dans les 100 jours, il a fallu d'abord faire l'état des lieux sur le plan sécuritaire, sur le plan socio-économique, sur le plan politique. C'est ces états des lieux qui vous permettent de concevoir un système qui va être opérationnel dans le reste du temps qui est consacré à l'action gouvernementale. Mais comme nous avons dit, dans les 100 jours, il n'a pas été question de refaire et de repartir de zéro. Il a été question tout simplement de capitaliser les acquis des différents gouvernements qui ont eu à se succéder à la tête de la province. Et en les systématisant, en les recadrant, en essayant de les adapter par rapport aux moyens qui sont disponibles, vers des résultats beaucoup plus concrets. Voilà la démarche.
Merci, Monsieur le ministre. Cyprien Biringuingua, bonsoir, vous êtes en ligne.
Bonsoir, nous sommes en ligne.
Vous êtes président de la Société civile du Sud Kivu et coordonnateur du Centre national d'appui au développement et à la participation populaire CENADEP antenne du Kivu. Comme au ministre Willy Kiriza, je vous demande, vous en tant que membre de la Société civile, un état des lieux par rapport aux différents gouvernements provinciaux qui se sont succédés.
Oui, c'est, merci beaucoup. C'est pas une question très facile, mais comme vous le demandez, je pense que tel que nous le vivons au Sud Kivu, la situation sociale au niveau de la province se caractérise par en fait une profonde détérioration du tissu social. Et comme vous le savez, d'ailleurs, les enquêtes de CRP avait déjà montré que le Sud Kivu avait atteint un niveau de pauvreté et s'est placé à la troisième place parmi les provinces les plus pauvres de la République démocratique du Congo, je pense après les Bandundu et l'Équateur. Mais quand on voit un peu les potentialités que regorge cette province au niveau du sol et du sous-sol, nous sommes là en présence d'un paradoxe criant. Et même certaines immenses potentialité de production au niveau de l'énergie hydroélectrique ne sont jamais donc exploitées. Mais qu'à cela ne tienne, il faut montrer que deux éléments importants militent pour cette situation indicible au niveau de la province. C'est d'abord toutes les guerres qui se sont succédées depuis 1996 et leurs conséquences dévastatrices. Mais il y a également toute la problématique des faibles gouvernances, comme vous venez de le dire, avec l'instabilité qui a caractérisé les animateurs et politiques, essentiellement le gouverneur et leurs équipes. Et nous avons estimé l'avis du gouvernement au niveau du site Kivu d'un an et trois mois à peu près, en moyenne. Quand on voit par pratiquement les quatre ans de législature déjà. Et bien entendu, on parle de son Excellence Marcelet Tshisambo, qui ne vient que d'accomplir pratiquement 100 jours de prestations. Il a hérité effectivement une situation très difficile, comme les ministres venaient de le souligner. Alors, il faut dire que sur le plan social, nous avons épinglé quelques secteurs clés, par exemple au niveau de l'éducation. L'accès à l'éducation est resté problématique. La plupart des parents des mères incapables de prendre en charge la scolarité de leurs enfants. Et certaines écoles dans certains territoires sont complètement désertées de suite justement de manque de possibilités de prendre en charge les frais. Et beaucoup d'enfants sont donc renvoyés comme ça dans la rue au vagabondage, ce qui rend incontrôlable le phénomène des enfants de la rue. Donc quand on voit le niveau du chômage, il est vraiment aigu. L'absence d'emploi, l'absence de politique d'emploi, ce qui frappe surtout les jeunes diplômés qui sont actuellement soumis à l'exode des cerveaux dans les pays voisins et lointains comme l'Haïti. Donc il y a pas mal de problèmes de déplacés internes qu'on compte à plusieurs milliers de personnes qui ne vivent plus chez eux. Un déficit d'accès à l'énergie électrique n'est plus à démontrer au niveau de Bukavu et dans les territoires, même si aujourd'hui on observe quand même quelques avancées, surtout au niveau de l'éclairage public.
Mais, donc, Cyprien,
Il faut montrer que les routes de desserte agricole sont dans un état de délabrement très avancé, ce qui fait que les zones de production ne sont jamais reliées aux zones de consommation.
Merci.
Alors, au niveau économique, je crois que
Cyprien Berrier,
la seule chose à montrer... Allô?
Voilà, je voudrais vous arrêter à ce niveau. Je vous redonne la parole tout à l'heure dans un deuxième tour de table. Le temps de faire parler Maître Soudi Alima Sikimputu, expert en décentralisation. Maître Soudi, bonsoir, vous êtes en ligne?
Oui, je suis en ligne.
Alors, vous avez suivi le ministre Willy Kiriza et Cyprien Biringingwa de la société civile. Visiblement, l'instabilité à la tête du Sud Kivu a sensiblement joué en sa défaveur, à les entendre.
Effectivement, je voulais directement commencer par une observation. Et la province du Sud Kivu a passé tout son temps à des querelles sur l'équipe dirigeante, sur le gouvernement provincial, sur la tête du gouverneur de province, ce qui fait que vous avez constaté que le bilan qui est en train d'être fait, c'est un bilan pratiquement générique, où on part sur des grandes lignes, alors que nous devons, d'ailleurs, c'est ça qu'il faudra que toutes les provinces commencent à faire. Lorsque nous faisons une sorte d'évaluation à partir de la radio Capi où le peuple est en train de nous suivre, il faut d'abord jeter un coup d'œil sur l'article 204. On va faire cette évaluation sur base de quels éléments? C'est sur base des compétences qui sont dévolues aujourd'hui aux provinces. Alors, qu'est-ce qui a été fait? Qu'est-ce qui n'a pas été fait? Quels sont les obstacles? Quels sont les défis à relever? Il faudra que nous puissions avoir ces schémas lorsque nous essayons de changer. Lorsqu'on parle de la restauration de l'autorité de l'État, qu'est-ce que ça veut dire? Il faudra que la province, le gouvernement provincial ou le représentant du gouvernement provincial qui parle, essaie de nous situer dans la portion des compétences de la province. Quel est l'effort qui a été fourni par la province pour restaurer cette autorité de l'État? Nous savons que nous avons, nous tous, la chanson de cinq chantiers, bien sûr, mais nous devons aider le président de la République à comprendre que dans la portion de ma compétence, moi, telle province, voici ce que j'ai réalisé, par exemple, ce qui concerne les routes d'intérêt provincial, voici ce que j'ai fait. Vous voyez, il ne faut pas voir, par exemple, une route d'intérêt national qui est financée par un contrat chinois, par exemple, qui est en train d'être fait au sein de la province. On dit qu'on a... On a posé une action dans le cadre des infrastructures ou des réalisations des cinq chantiers. Donc, c'était pratiquement ça. La même chose dans les domaines sécuritaires. La province du Sud Kivu n'a pas connu, n'est pas la seule province à connaître l'insécurité pendant toute cette période. Je prends le cas du Nord Kivu voisin, qui a la même situation. Mais, il y a un état des lieux qui est quand même fait. Nous suivons, il y a telle école qui a été construite ici, il y a tel pont qui a été construit là-bas, ainsi de suite. C'est de ça dont on a besoin. Et aujourd'hui, vous voyez que la province du Sud qui voit une difficulté de dresser un petit bilan parce que tous les ans, on doit changer de gouverneur, on doit changer de gouvernement provincial. Il n'y a pas moyen que le gouvernement provincial puisse se mettre et voir quelles sont les actions à poser vis-à-vis des compétences qui lui sont dévolues. Aujourd'hui, nous avons une grande discussion sur la mobilisation des ressources, le financement de la décentralisation au niveau provincial. Je ne sais pas si la province du Sud Kivu, heureusement nous avons un ministre provincial là-bas, qui nous dise un peu à quel niveau ils sont dans le cadre de tout ce qu'il y a comme débat sur la mobilisation des ressources provinciales. Voilà un peu ce que je voulais dire à ce point.
Monsieur le ministre, qu'est-ce que vous répondez directement à Maître Soudi?
Oui, merci beaucoup, c'est un confrère qui parle, je suis très heureux. Je voulais dire, puisqu'il fait allusion à l'article 204 qui répartit les compétences exclusives à la province, que non seulement ces compétences doivent s'exercer dans un contexte sécuritaire assez apaisé pour escompter les résultats qu'on attend du gouvernement provincial. Mais c'est ainsi que j'ai dit, quand on parle à la radio et au téléphone, c'est très aisé d'évaluer ou de parler de la province Sud Kivu. Mais lorsque vous faites le tour des 8 territoires qui composent cette province-là, nous venons de le faire, nous les connaissons puisque nous sommes sur place ici, on ne peut pas se permettre un certain discours à l'égard du gouvernement provincial. Il est question tout simplement de se mettre, de savoir quel est le travail qui est fait, le travail s'est fait dans quel esprit et dans quelles conditions matérielles. Et donc, je veux dire que, de manière beaucoup plus claire,
Il ne peut pas nous opposer les arguments que les actions posées par les Chinois, les actions posées par les partenaires ne sont pas des actions du gouvernement. Non, ça c'est pas clair. J'ai entendu beaucoup de gens qui réfléchissent. Mais là c'est un raisonnement qui est permis à un profane. Lorsqu'un avocat parle, comme c'est mon confrère, je ne le taquine pas, il doit quand même comprendre que les actions du gouvernement se posent aussi bien par le gouvernement et les acteurs politiques nationaux et par les partenaires extérieurs qui viennent en aide à l'action gouvernementale. Et donc, l'action gouvernementale a ces deux aspects-là, il ne faut pas exclure l'un par rapport à l'autre. Par rapport à la querelle à laquelle fait allusion que la province Sud Kivu s'est allisée dans les querelles politiques, c'est bien beau. Moi, j'ai dit, il fait un parallélisme avec la province du Nord Kivu. C'est très bien comme raisonnement. Mais moi, je lui dis, je vais le situer que moi, je suis ici depuis 94 quand l'instabilité a commencé. J'ai vu le 94 avec l'évasion des réfugiés. J'ai vu 96 avec l'entrée de l'AFDL. J'ai vu 98 avec le RCD qui a atteint un paroxysme tel que toutes les structures socio-économiques et politiques ont été mises à genoux ici au Sud Kivu. Et cette comparaison-là ne peut pas aller automatiquement avec les autres provinces. Qu'est-ce qu'il a le bilan du Sud Kivu par rapport au Nord Kivu? Mais moi, je lui dis qu'aujourd'hui, nous pouvons nous permettre, sans risque d'être contredit, que les conséquences de l'instabilité que nous vivons détermine le niveau de dégâts qu'a connu le site Kivu par rapport à toutes ces périodes troubles.
Monsieur le ministre.
Et j'ai dit, ces troubles-là, ce déséquilibre a commencé d'abord par l'infrastructure humaine.
Monsieur le ministre.
C'est ça la base, c'est ça le capital, n'est-ce pas?
Monsieur le ministre.
C'est ce qu'aujourd'hui, on doit se mettre d'accord, qui fait quoi, qui est capable de faire quoi, et le temps de faire cet arbitrage-là, écoutez mon cher ami, ça doit prendre du temps.
Monsieur le ministre, avant de poursuivre, prenons cette question qui nous vient de Bukavu, où vous êtes pour vous.
Léon Léani de Bukavu. Au Sud Kivu, le bilan est tout à fait négatif sur tous les plans, à l'instar de toutes les provinces, à l'exception de Katanga peut-être. Résultat de l'immixion tant décriée de l'ANP sur la désignation des animateurs des provinces. Le partage du butin et les accords politiques semblent être le seul critère de désignation au détriment de la compétence et de la volonté du peuple.
Monsieur le ministre, brève réaction par rapport à cette observation de cet auditeur.
Je remercie l'auditeur pour son observation. J'espère, comme je venais de le dire, qu'il a été à Bukavu. Parce que quand on parle du bilan négatif, je pense que les gens doivent avoir la mémoire fraîche. Et je tiens à lui rappeler, ou à rappeler à l'intention de tous les auditeurs, que moi j'ai vécu dans la province Sud Kivu, au moment où on ne pouvait pas sortir. On avait appris à la population que quand ça tire, il faut tout de suite se mettre en dessous du lit, n'est-ce pas? Et moi j'ai passé cette période, et pendant, je crois, plus d'une année, nous avons vécu une terreur comme ça. Mais aujourd'hui, nous sommes dans une province Sud Kivu. Je revenais tout de suite de Chabunda. J'ai vu le militaire avec la population en symbiose. Aujourd'hui, on vit à Bukavu, où on se promène jusqu'au petit matin. J'ai dit non, il faut pas voir tout négativement, puisque l'appréciation dépend effectivement de l'angle où on se place.
Merci.
Mais moi, je me dis, sur le plan sécuritaire, on ne peut pas dire que le bilan a été négatif.
Merci.
Je parle sur le plan des infrastructures, n'est-ce pas? Les gens doivent savoir qu'est-ce qui s'est fait. Peut-être que c'est un problème de communication, on leur donne raison. Mais moi, je viens de Chabunda.
Merci.
Je suis allé à Chabunda, où le véhicule n'a plus jamais été il y a plus de 30 ans.
Merci, monsieur le ministre.
Aujourd'hui, la route est en train d'être reverte. C'est des boulets qui se font. Je viens de l'escarpement d'Engomo, où je roule à 40 km.
Merci, monsieur le ministre.
À l'heure. C'est des réalisations, je crois, qui doivent être capitalisées.
Merci, monsieur le ministre. On comprend donc que vous n'êtes pas d'accord avec cet auditeur, Cyprien Biringingwa. Il y a un autre auditeur, Kikuni Bungulu Joseph, qui est à Goma, en Nord Kivu, qui dit « Les 4 ans passés sont perdus pour le Sud Kivu. 1. Sur le plan sécuritaire, la province occupe toujours sa position de ventre mou de la République, le bastion des groupes armés, la capitale mondiale du viol et toutes sortes d'abus sexuels. 2. Sur le plan économique, c'est la catastrophe. Les opérateurs économiques de Bukavu
Bukavu préfèrent aujourd'hui importer leurs marchandises via le Nord Kivu pour craindre les tracasseries des services publics aux frontières du Sud Kivu, la montée en puissance de l'exode des fils et filles du Sud Kivu sous d'autres cieux pour fuir la situation misérable qui sévit dans cette province. Bref, pendant 4 ans, le Sud Kivu n'a fait que marquer les pas, Cyprien Biringingwa.
Oui, merci beaucoup de cet avis. Donc, c'est pratiquement tout en mettant en ligne de compte tous les contextes difficiles tels que venait de le tracer le ministre. Je souscris effectivement à l'analyse de l'auditeur, parce qu'en fait, ici, il ne s'agit pas de jouer à la défensive, il s'agit de présenter la situation telle qu'elle est aujourd'hui et de pouvoir justement se reprofiler dans l'avenir en essayant de tirer des leçons de la situation telle que nous l'avons vécue. En effet, aujourd'hui, sur le plan sécuritaire, la province du Sud Kivu connaît quelques avancées, mais nous devons dire que le chemin à parcourir est encore très long. Je mentionne la persistance de l'activisme des bandes armées étrangères, particulièrement les FDLR et FNL qui défient pratiquement les troupes à l'opération à certains endroits et par manque de stratégie de protection des populations civiles, on a réussi de passer par là des pertes en vies humaines de la part de dans les rangs des populations. Mais également, il faut mentionner quelques cas de discipline au niveau de la police et de l'armée et qui sont des cas observables. Et nous mentionnons aussi pratiquement des cas de banditisme occasionnés par des ex-combattants démobilisés des forces et des 12 armées et qui n'ont jamais été rapatriés dans leur province ou tout simplement ils n'ont pas été donc socialement et économiquement intégrés. Donc la situation de la femme sur le plan sécuritaire effectivement reste préoccupante, notamment dans les territoires avec tout ce qu'on connaît comme service sur le plan des viols sexuels. Mais il faut montrer que les itinérances dernièrement observées, intensifiées par le gouverneur de province, essaient un peu de redonner un peu de l'espoir à ces populations. Et nous avons enregistré également quelques avancées au niveau de la stratégie de collaboration entre les militaires en opération et la police et les services de renseignement de manière à pouvoir sécuriser les populations civiles dans les zones en opération. Mais ceci reste quand même encore à une échelle pas encore vraiment très très notable de manière à pouvoir vraiment se targuer du rétablissement de l'autorité de l'État. Donc, il y a encore un grand chemin à parcourir à ce niveau-là.
Cyprien.
Il faut dire effectivement que, au niveau économique, oui, il faut noter qu'il y a, à un moment donné, on a noté une montée des taux de taxes, mais également de la multiplicité des taxes, impôts et redevances. Et là, effectivement, pas mal d'opérateurs économiques qui se sentaient donc asphyxiés, ont commencé déjà à passer par notamment la province du Nord Kivu pour donc importer leurs marchandises. Mais nous pensons que actuellement, compte tenu des efforts constatés, notamment au niveau des interpellations, au niveau de la lutte contre la fraude fiscale. Et même le détournement, parce que nous avons noté quand même beaucoup de satisfaction, quelques cas d'interpellation et même des mises en prison par le gouvernement provincial. Nous pensons que cette lutte contre ce type d'immoralité pourrait permettre en fait qu'on puisse enregistrer des avancées.
Merci. Maître Soudi, il y a cet auditeur, Imam Hassan, qui est à Kalemie au Katanga, qui dit « Le bilan de toutes les provinces ne sera pas positif en 4 ans. Je demanderai au peuple congolais d'être patient et compréhensif, car le pays était dans le chaos qui nécessite les efforts et la contribution physique et intellectuelle de tous. »
Oui, je pense qu'il n'a pas totalement raison. ça ne sera pas totalement négatif. C'est la même chose que je voulais dire au gouvernement provincial, notamment aux confrères du ministre provincial. Rapidement, sur la question des partenaires qu'il a évoqué, il y a absolument une nuance à faire. Il parle avec quelqu'un qui connaît non seulement bien le Congo, mais qui connaît tout ce qui se passe au Congo dans le cadre de l'administration territoriale. Il y a une nuance à faire entre tout ce qu'il y a comme intervention dans le domaine des infrastructures. Il y a les domaines qui relèvent du pouvoir central, et il y a les domaines qui relèvent de la province. Réalisé par un partenaire ou pas, cette nuance existe entre eux, et le ministre doit retenir cela. Deuxièmement, je soutiens l'action des itinérances, parce que ce sont les itinérances d'abord font partie de l'administration du territoire. Il faut que la population puisse retenir cela. Et c'est ce qui permet à l'équipe gouvernementale provinciale de palper du doigt ce qui se passe. Le cas du Sud Kivu, je crois que l'insécurité n'est pas une excuse totale de la bonne gouvernance ou de l'administration de la province. Sinon, tous les mandats seront comme ça. Toute la province n'est pas une zone opérationnelle. Nous savons qu'il y a une partie aujourd'hui de la province qui est une zone opérationnelle. Parce que s'il en était ainsi, le ministre qui est là, il pourra peut-être me donner raison qu'il n'allait pas, eux, faire l'itinérance sur tout ce nombre de territoires qu'il venait de citer. Lorsqu'on est en mesure de faire l'itinérance là-bas, on est aussi en mesure de poser des actes dans le cadre de compétences qu'on a pour administrer cette partie de la province. Alors moi, je pense qu'il y a, s'il y a un bilan à faire, c'est difficile d'échanger sur le plan de fond avec un gouvernement qui vient de faire 3 mois seulement. Moi, je me mets à leur place. Mais s'ils peuvent ramasser de manière globale, à partir des premières élections provinciales jusqu'à ce jour, et voir dans les domaines économiques, financiers, sécuritaires, qu'est-ce qui a été réalisé, ça peut permettre peut-être aux auditeurs de bien comprendre.
Mais Maître Soudi, si on faisait ce bilan global comme vous le souhaitez, est-ce que ce serait prématuré d'affirmer que le Sud Kivu est passé à côté de sa législature?
Je suis conscient, parce que je circule le Congo, je circule le Sud Kivu aussi. Je sais ce qui se passe là-bas. La première des choses, il y a la question de l'insécurité, bien sûr, mais sur le plan de la maîtrise de l'administration territoriale, c'est cette instabilité des institutions qui a fait qu'aujourd'hui, vous voyez, tous ceux qui pourront passer là-bas, encore, il faudra peut-être donner une année à ce gouvernement pour qu'il puisse nous présenter un bilan quelconque. Parce qu'aujourd'hui, il est très difficile, cette instabilité a créé beaucoup de blocages, de manière à ce qu'aujourd'hui, peut-être contrairement aux autres provinces, il n'y a pas une liste à nous établir, voilà ce que nous avons fait, il y a ça. Je sais qu'il y a quelques actions qui ont commencé à un moment donné, avec l'asphaltage de la ville, et, je ne sais pas, mais sur le plan de l'intérieur de la province, comme venait de dire d'ailleurs le ministre provincial, et là c'est encore un problème. Alors qu'aujourd'hui on a besoin des gouvernements provinciaux qui pensent à la construction des ponts, à la mobilisation des ressources pour les moyens de leur politique, etc., etc.
Maître Soudi, il y a un député provincial qui nous a écrit, l'honorable Odiane Paulin de l'Assemblée provinciale de la province orientale, qui dit « Le bilan des 4 ans du Sud Kivu ne peut être que négatif, sauf miracle. C'est la province la plus instable du pays, avec 3 gouvernements provinciaux doublés de l'instabilité à l'Assemblée provinciale. Il me semble tout simplement que les tireurs de ficelles se trouveraient à Kinshasa. Je constate pour ma part que ceux qui sont à Kinshasa cherchent à tout prix à déstabiliser les institutions provinciales afin de tirer une conclusion dans le sens de leur suppression, Maître Soudi.
Oui, c'est un constat que nous avons fait pour la plupart des provinces, mais cela ne dispense pas le gouvernement de province et le gouvernement provincial d'arrêter un certain nombre de mesures pour présenter un jour leur mandat. Vous voyez, aujourd'hui, nous discutons sur un bilan à mi-parcours. Si tous les regards sont tournés vers Kinshasa, bien sûr, nous sommes dans une politique qui doit avoir une cohérence avec le niveau central. Mais cette cohérence, ce n'est pas pour torpiller l'action gouvernementale provinciale. Donc, il y a une politique minimum à mener au niveau interne qui puisse aller au-delà de tout ce qui peut être une sorte de blocage, une sorte d'injonction dans la mise en œuvre des actions de la province, au niveau de chaque province. Je crois que certaines provinces ont compris et ils ont commencé à poser des actes qui vont au-delà de tout ce qui peut venir comme acte d'immixion des gens de Kinshasa vis-à-vis du gouvernement provincial.
Maître Willy Kiriza, je rappelle que vous êtes ministre des Travaux publics et de l'Environnement du gouvernement provincial du Sud Kivu. Avant de poursuivre encore, prenons cette question pour vous.
Théophile Chamba à Kananga, au Kassai occidental. Je me rends compte que le Sud Kivu, c'est l'une des provinces qui a fait la honte du pays, car elle a été caractérisée par l'instabilité politique très remarquée. C'est ainsi qu'il serait un mal pour l'honnêteté si on nous dit que le bilan de cette province est positif. Est-ce que le gouverneur peut nous dire à quel taux se situe aujourd'hui le chômage dans sa province? Quel est l'état des routes de sa province?
Monsieur le ministre, brève réaction, je vous en prie.
Oui, merci beaucoup pour la question de l'auditeur. Nous disons qu'on est en train de s'adresser à un gouvernement qui a fait 3 mois seulement. Est-ce que le taux de chômage du site Kivu est criant par rapport au taux que nous connaissons, puisque nous ne sommes pas des citoyens du site Kivu, nous sommes des citoyens de la République démocratique du Congo. Et le chantier emploi, c'est pas pour rien qu'il figure parmi les 5 chantiers qui sont prônés par le chef de l'État. Et donc, au site Kivu, il n'y a pas une particularité par rapport au chômage. Au contraire, moi j'ai eu personnellement à recevoir certains visiteurs et qui ont eu à s'exclamer en disant non, par ici il existe un dynamisme particulier qu'on ne trouve peut-être pas dans d'autres provinces. Et donc, il faut s'assurer que au site Kivu, il y a un dynamisme sur le plan économique, il y a un dynamisme sur le plan de l'emploi, même si tout n'est pas rose, bien entendu, les efforts restent à faire. Mais lorsqu'on fait une comparaison avec d'autres provinces, je vais ramasser rapidement, puisqu'on a même parlé de la pauvreté du site Kivu. C'est vrai, lorsqu'on fait une analyse beaucoup plus superficielle, on peut se permettre de dire que la province site Kivu est une des provinces pauvres de la République démocratique du Congo. Mais c'est pas vrai, puisque la province du site Kivu est les chiffres à l'appui, la 5e province à la contribution au budget national. Qu'est-ce qui permet à ce moment-là de dire que c'est la province la plus pauvre d'ici, du pays? Non. Et donc, c'est pour dire qu'il existe une richesse au site Kivu, mais nous devons regarder les choses avec exactitude. On vient d'épingler la problématique des groupes armés, ces freins. Au site Kivu, il y a eu ces freins. Et ces freins-là, nous sommes en train de demander le concours, non seulement de la population, non seulement de toutes les institutions, mais nous avons prêché depuis longtemps que du fait que les groupes armés, FDLR, Interam et que sais-je encore, ont été institués sur base des accords de la communauté internationale. Dans le premier gouvernement de Sud Kivu, moi j'ai été conseiller juridique et diplomatique, et à toutes les instances nous avons demandé à la communauté internationale de s'occuper de la question des répatriements des réfugiés de tous ces groupes étrangers.
Merci, monsieur le ministre.
D'autant plus que ce sont eux qui ont été à la base de leur arrivée en République démocratique du Congo.
Merci, monsieur le ministre. Cyprien Biringingwa, vous êtes président de la Société civile du Sud Kivu, coordonnateur du Centre national d'appui au développement et à la participation populaire CENADEP antenne du Kivu. Qu'est-ce qu'il faudrait faire, hein, Cyprien Biringingwa? Qu'est-ce que vous recommanderez au gouvernement provincial pour que, dans pratiquement l'an qui reste, hein, pour que le Sud Kivu puisse ne fût que décoller encore?
La proposition serait effectivement de voir comment, comme ça s'observe aujourd'hui, de renforcer effectivement ces rapprochements entre les institutions politiques et de pouvoir voir dans quelle mesure justement garantir cette stabilité au niveau institutionnel. Laquelle pour la plupart des fois a été due à des intérêts plutôt égoïstes que des intérêts plutôt dans le sens de pouvoir, de vouloir servir la population. Ça c'est une première chose parce que c'est là où se trouve effectivement les diables qui hantent la gouvernance au niveau du Sud Kivu. La deuxième chose au niveau de la société civile, nous avons toujours proposé effectivement qui est une politique qui puisse faciliter et encourager les initiatives au niveau privé, parce que le Sud Kivu est caractérisé par une capacité de prise d'initiative au niveau privé jamais connue dans d'autres provinces. Et c'est ce qui explique d'ailleurs que les gens continuent encore aujourd'hui à pouvoir résister. Et donc, il va falloir que le gouvernement entre en dialogue avec les différents opérateurs, avec la société civile, avec le secteur privé, la FEC, et tous les autres fonds, de manière à pouvoir comment promouvoir justement cette dynamique communautaire et pouvoir mobiliser pratiquement l'essentiel de fonds pour que le gouvernement puisse avoir les recettes de pouvoir financer son programme.
Merci à Cyprien Beringingwa. Maître Soudi, vous avez suivi Cyprien Beringingwa à fait deux propositions, garantir la stabilité institutionnelle et encourager les initiatives privées pour permettre au Sud Kivu de redécoller. Qu'est-ce que vous ajouterez à ces propositions?
Là, moi, je vais ajouter c'est que le gouvernement provincial du Sud Kivu puisse éviter de se confondre au pouvoir réglementaire. Il faut qu'il puisse, parce que nous sommes dans une décentralisation clairement définie par la Constitution et les lois qui sont déjà en vigueur. Il faut que le gouvernement provincial du Sud Kivu exerce ses compétences, effectivement, de manière à ce que ses compétences puissent lui permettre, en attendant la fameuse rétrocession qui vient de Kinshasa, qu'il puisse avoir une bonne politique de mobilisation des ressources internes en vue de faire face aux problèmes que le Sud Kivu a. Ce sont ces aspects des choses qui vont permettre à ce que le gouvernement provincial, face à telle ou telle autre situation, puisse se mesurer et recourir peut-être à une ressource extraordinaire en cas de difficulté quelconque. Parce que si on se met à tourner en rond, à se confondre avec tout ce qui se fait à Kinshasa, et ainsi de suite, on aura toujours les problèmes de politique, de gestion de la province du Sud Kivu, comme nous venons de le constater. Je crois que c'est la clé de tout ce qui pourra suivre dans la mise en œuvre de la politique de décentralisation au Sud Kivu.
Nous abordons la dernière partie de cette émission qui concerne pratiquement déjà les conclusions. Monsieur le ministre Willy Kiriza, vous avez suivi les différentes propositions pour que le Sud Kivu redécolle. D'après vous, qu'est-ce qu'il faut améliorer de plus? Ce sera votre conclusion également.
Oui, merci. Et pour conclure, nous saluons les différentes propositions qui ont été données. Quant au dialogue, le gouverneur déjà venait de faire allusion à un dialogue social. Ce dialogue social consiste non seulement à maîtriser les données sur le plan de cette stabilité politique dont la province a besoin, mais aussi pour amener tout le monde à donner sa contribution pour la maîtrise des moyens dont le gouvernement a besoin. En ce qui concerne les compétences auxquelles fait allusion mon confrère, je crois que ces compétences sont bien maîtrisées. Moi, je suis avocat de plus de 15 ans, et donc je sais lire l'article 204, et je ne dois pas me confondre, je ne peux pas confondre les compétences de la province avec celles du gouvernement central.
Merci, monsieur.
Les compétences sont bien déterminées, mais il est question que tout le monde se mette ensemble, mobiliser les recettes pour couvrir les actions qui doivent être bien menées clairement.
Merci, monsieur le ministre. Cyprien Beringingwa, comment vous entrevoyez l'avenir du Sud Kivu? C'est ça aussi votre conclusion?
Oui, je pense que le contexte a été très difficile, particulièrement donc pour le Sud Kivu. Mais nous pensons qu'avec, tel que nous sommes en train de l'observer au niveau de la société civile, je pense que le dynamisme actuel, tel que insufflé au niveau de la province avec les nouveaux gouvernements, donne beaucoup plus d'espoir et de confiance. Et que donc il va falloir justement que ce dialogue, comme nous l'avons dit, soit renforcé et même institutionnalisé, et de manière à ce que chaque citoyen puisse être conscient de la situation.
Merci.
Et de pouvoir donc participer.
L'encadrement des recettes. Merci. Maître Soudi Alimasi Kimputu, expert en décentralisation, un mot en guise de conclusion.
En guise de conclusion, l'avenir politique de la province du Sud Kivu dépend de la stabilité des institutions provinciales. Donc, il y a lieu que les acteurs de la province du Sud Kivu puissent s'y mettre, y compris ceux du pouvoir central qui ont des influences, pour qu'il y ait une stabilité des institutions ça, la province du Sud Kivu, pour que les choses puissent décoller comme partout ailleurs.
Merci beaucoup. Dialogue entre Congolais, c'est fini pour aujourd'hui. Mise en onde, Mimi Kindou, coordination technique, Bob Milandou, supervision rédactionnelle, Ben Kabamba, réalisation, Guy Matensongo Kambale, Kelin Kouté Kibambe, présentation, Alain Roux Mouchige. Merci de votre attention, chers auditeurs et internautes, et merci à nos collègues d'Okapi Bukavu pour leur contribution à cette émission. Prenez bien soin de vous. Au revoir.
Okapi, okapi.